CJSO 101.7. Tête première. Une présentation de Meubles André Beaulieu et de Développement économique Pierre de Sorel. Tête première. L'émission où les débats font avancer les choses. Voici votre chef d'orchestre, Denis Marion, à CJSO. C'est Tête première.
Bonjour, bonjour, ici Denis Marion. Bienvenue à Tête première, donc une émission d'affaires publiques sur les ondes de CJSO 101.7. Une émission qui vise à vous informer avec des gens qui font l'actualité ou qui l'observent. Vous avez peut-être remarqué, si vous nous écoutez, qu'on couvre plusieurs sujets économiques, culturels, communautaires, politiques. Alors, on aime ça regarder tout ce qui se passe dans la région, puis être un relais entre ce qui arrive et les gens qui font arriver les choses, et vous, comme auditeurs. Écoutez, j'ai un petit mot sur l'actualité avant d'aller sur le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Vous avez vu que les négociations dans le secteur public prennent une vitesse un peu plus accélérée actuellement. On s'attend à des nouvelles offres du gouvernement du Québec à ses fonctionnaires. Dimanche, la présidente du Conseil du Trésor a annoncé là, qu'elle déposera de nouvelles offres. Vous savez, on parle actuellement de 420 000 personnes qui travaillent dans le secteur public. Le secteur public, c'est autant l'éducation, la santé que la fonction publique elle-même et plusieurs organisations. Et on apprend qu'il y aura une grève le lundi 6 novembre. Puis là, il y a une petite information de plus qu'on a eue ce matin qui est un peu surprenante. C'est qu'on apprend que dans les écoles primaires et secondaires, la grève sera de minuit à 10h30 le matin. Alors, on ne peut pas reprocher aux syndicats de manquer d'imagination là, dans leur façon de nous indiquer leur intention de bien défendre leurs intérêts. Mais c'est quand même un peu surprenant. J'ai hâte de voir comment la population va réagir. Je pense que dans des conflits comme ceux-là, l'idée d'antagoniser les gens, c'est peut-être pas toujours l'idée du siècle. Enfin, on verra bien. C'est évident que c'est au cœur de plein de choses, toute la question du pouvoir d'achat. Vous et moi, on se pose la question. Les employés du secteur public, évidemment, se demandent comment leurs conditions pourraient être améliorées. Alors, sur ce, aujourd'hui, on va parler du Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu, le CAB, que vous connaissez sûrement, qui va nous ouvrir les portes de ces nouveaux locaux qui ont été fraîchement rénovés. Ça va être inauguré aujourd'hui même, si je ne me trompe pas, à 17h aujourd'hui. Alors, avec mes invités qui sont de l'équipe du CAB, on va traiter évidemment des travaux de rénovation, mais pourquoi pas profiter de l'occasion pour parler des actions du CAB, des équipes, de l'ensemble des bénévoles qui y travaillent dans la région. Alors, je reçois, après la pause, le directeur général, Ando Andrianadi, et des membres de son équipe. Et je trouve que c'est une excellente façon d'en apprendre un peu plus sur cet organisme qui est actif dans la région depuis maintenant plus de 50 ans. Alors, je vous attends avec mes invités de l'autre côté de la pause publicitaire.
Vous avez à cœur votre santé et celle de votre famille? Moi aussi. Ici David Gauthier. Dans les conseils Brunet sur les ondes de CJSO, on se pose des questions, on y répond et on vulgarise toutes sortes de situations. On prend soin de votre santé de la tête aux pieds. Du contenu informatif qui est loin d'être plate. Ça vaut la peine d'être bien renseigné? Alors, soyez à l'écoute les jeudis 17h15 pendant Valérie l'après-midi.
Les conseils Brunet. Présentation de David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet. C'est l'anniversaire d'un de vos proches. Les matins de semaine à 7h10, CJSO souligne ses événements tout spéciaux. Pour inscription, rendez-vous dans la section C'est ta fête du CJSO.ca. Un élu chaque mois gagnera de beaux cadeaux.
Une présentation d'Azimut Diffusion, du cinéma Saint-Laurent, de William G. Walter, saucissier, du bistrot de Retraiteur, du comptoir d'Alexandrine, biscuiterie, pâtisserie française et de la pharmacie Jean Coutu, Tracy.
Les températures chutent et les prix aussi. Pendant le plus grand solde de pneus de l'année de Canadian Tire, économisez jusqu'à 25% sur des marques renommées comme Motomaster, Bridgestone et Michelin. Du 13 octobre au 2 novembre, seulement chez Canadian Tire. Les conditions s'appliquent, détails en ligne.
Meubles André Beaulieu fête ses 50 ans. Pour l'occasion, vous êtes invité à participer au concours de notre famille à la vôtre. Vous pourriez gagner un repas pour 8 personnes au restaurant Le Fougas, une valeur de 750 $. Participez jusqu'au 29 novembre en remplissant le formulaire en ligne à meublesbeaulieu.ca. De notre famille à la vôtre pour célébrer les 50 ans de Meubles André Beaulieu.
Express Pub. La Maison de Passeurs est un organisme d'aide pour les hommes à l'écoute de vos besoins. Nous sommes une ressource pour y trouver support et encouragement. Pour une approche sans violence, appelez-nous au 450-743-8403.
Tu te questionnes par rapport à ta relation de couple et tu cherches à y voir plus clair? Maison La Source t'offre une consultation externe, hébergement et intervention jeunesse. Tu n'es pas la seule et tu n'es plus seule. Communique avec la Maison La Source au 743-2821.
Tête première. Une présentation de Meubles André Beaulieu et de Développement économique Pierre de Sorel. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud. De retour à Tête première avec Denis Marion.
Alors, on y va avec ce sujet très intéressant, je pense, avec l'équipe du Carrefour, du Centre d'action bénévole. Alors, je vous présente tout de suite mes invités. On perdra pas de temps parce qu'on a bien des choses à jaser, vous allez voir. D'abord, Ando Andrianadi, qui est le directeur général depuis déjà quelques années du Centre d'action bénévole du Bois-Richelieu. Bonjour, Ando.
Bonjour, Denis.
Roger Bibeau, qui est un bénévole, il est ici comme bénévole, mais que vous connaissez sûrement parce que c'est un homme d'affaires qui a été et est toujours présent sur la scène économique de la région. Bonjour Roger.
Bonjour à tous.
Richard Bourque, qui lui est trésorier, membre du conseil d'administration, puis vous allez voir qui a joué un rôle important dans la rénovation des bureaux, des nouveaux locaux là, du CAB. Alors bonjour Richard.
Bonjour.
Et Sylvie Ouellette, qui est dans l'équipe du CAB, une employée qui est coordonnatrice au soutien alimentaire. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer alors qu'on occupait des fonctions différentes. Bonjour Sylvie, bienvenue.
Bonjour Denis.
Je suis vraiment très content de vous recevoir aujourd'hui, bien que vous devez être un petit peu occupé quand même avec la fameuse inauguration officielle qui va avoir lieu plus tard cet après-midi, et aussi les portes ouvertes que vous préparez pour la population de la région. Ando, pourquoi vous invitez comme ça la population à venir vous visiter?
Au fond, il y a plusieurs objectifs là-dedans, dont un, de faire connaître les mises à jour qu'on a faites au niveau des rénovations du Centre d'action bénévole. Donc, premièrement, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a mis moins de personnes en place. Donc, ça rend plus facile l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc, ça peut toucher une partie de la population. Ensuite de ça aussi, voir un peu aussi ce qui a été fait à l'intérieur, notamment les salles d'attente au niveau de la confidentialité, puis les bureaux qui ont été aussi, fermés, un peu plus fermés maintenant avec la confidentialité, surtout la dignité aussi humaine. Puis l'autre optique aussi, c'est de leur faire voir les services du CAB en général, qu'est-ce qu'on offre comme service à la communauté. Donc, c'est ça les
vous
objectifs.
Vous attendez beaucoup de monde? Comment est-ce que ça fonctionne? On peut y aller quand? À quel moment?
Au fond, comment ça fonctionne, c'est que les gens peuvent nous écrire soit directement à moi ou à notre adjointe, donc à adjointe@cab-barichelieu.org ou sinon direction@cab-barichelieu.org ou juste appeler au CAB au 450-743-4310.
Pour demander à prendre, ça,
oui, pour prendre un rendez-vous.
Pour éviter qu'il y ait beaucoup
oui,
de monde en même temps.
Oui, c'est ça. Parfait. Pour arrimer les choses. Oui.
Avant d'aller vers le projet de rénovation, et on va en parler en particulier avec Richard Bourque, pourquoi vous en êtes venu à l'idée qu'il fallait rénover les locaux? Qu'est-ce qui vous a amené à aller vers un projet de rénovation des locaux? On l'a dit, c'est pas les premiers locaux que le CAB ou le CAB est là, depuis 50 ans, bien sûr, mais pourquoi il fallait rénover?
Bien, il y a eu plusieurs enjeux, je dirais. Puis c'est un dossier qui a été mis sur la table depuis plusieurs années. Donc, avec mon arrivée il y a 4 ans, on a regardé ça avec le conseil d'administration. Puis on s'est dit, on y va. On va faire le projet parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, durant la pandémie, il y a une grosse file d'attente à l'extérieur pour l'aide alimentaire. Donc, pour la dignité de ces gens-là et la confidentialité, c'était important pour nous d'y aller de l'avant au niveau de ce projet-là et de faire une salle d'attente dont je parlais tantôt pour ça. Donc, il y a eu ça. Puis aussi au niveau des bureaux, effectivement, que des fois les gens entendent, même les bénévoles entendent. Oui, c'est ça, la mise à niveau des bâtiments. L'autre souci aussi, c'était au niveau de la mise aux normes. Donc, on a une cuisine en bas, puis auparavant, puisque c'était un bâtiment de la ville. Donc, lorsque les pompiers arrivaient, tout ça. Regardez, mais il n'y avait pas de hotte, notamment dans la cuisine, donc ça prenait ça. Mais maintenant, quand on est propriétaire, on n'a pas le choix que de se conformer à ce niveau-là. Sinon, il y a aussi les escaliers qui n'étaient pas, qui n'avaient pas de mur coupe-feu, notamment. Donc ça aussi, il fallait se conformer par rapport à ça. Mais Richard aussi pourra peut-être compléter à ce niveau-là. Puis je pense, il y a aussi l'accès universel dont je parlais d'entrée de jeu. Donc ça, c'était bien important aussi pour nous parce qu'on rencontrait les gens à l'extérieur, même durant l'hiver. Fait qu'il y avait des gens à mobilité réduite en chaise roulante qui venaient pour nos services. Mais là, on donnait le service à l'extérieur, donc on trouvait que ça n'avait vraiment pas de sens. Donc tout ça mis ensemble nous a fait en sorte qu'il faut vraiment faire de quoi. Il faut avancer dans le projet.
Bien, justement, Richard, vous êtes trésorier du conseil d'administration, puis vous avez été chef de projet de la rénovation en question. Oui. Vous avez une formation d'ingénieur. Quel genre de défi c'était que d'être le chef de projet là, pour
la construction? Le premier défi, ça a été de ramasser des argents. OK? Ça nous a pris 3 ans. Et lorsqu'on a voulu lancer le projet... lorsqu'on a reçu les soumissions, avec la pandémie, tout s'est mis à monter partout.
Ben oui.
OK? Fait que les estimés qui avaient été faits par nos groupes d'ingénieurs et architectes, il nous manquait un 250 000.
Déjà, c'est le premier défi, merci.
Premier défi, par rapport à ce qu'on avait ramassé. Et ce qu'on a fait à ce moment-là, on s'est tourné de bord, puis on a demandé à Jean Cournoyer de Construction 2000 de nous aider, et il a accepté. Et il a accepté de plafonner aussi le projet. S'il y avait des imprévus, il les absorbait. Fait que grâce à lui, on a été capable de faire notre projet.
Bien, justement, dans le communiqué que vous avez émis là, cette semaine pour annoncer l'inauguration qui va avoir lieu un peu plus tard aujourd'hui, vous évoquez plusieurs partenaires, plusieurs soutiens, plusieurs appuis. Je pense que ça vaut la peine de les souligner, mais aussi de voir, ça nous permet aussi de voir l'envergure des appuis que vous avez obtenus là, dans ce projet-là.
Effectivement, au fond, j'en profite aussi, Denis, pour remercier tous ces gens-là, tous ces partenaires, tous les particuliers qui nous ont aidés de loin ou de proche dans le projet de rénovation en tant que tel. Donc, je cite les personnes suivantes ou les entreprises. Au fond, on a premièrement la ville de Sorel-Tracy qui nous ont beaucoup aidés. Au niveau de ce projet-là. Donc, la cession du bâtiment aussi qui a été faite au mois de février de cette année.
C'est cette année la cession du bâtiment?
Oui, c'était au mois de février.
En cours de travaux, là, je veux dire.
Il fallait l'avoir avant de commencer les travaux pour être maître d'œuvre.
OK.
Donc, il y a la ville de Sorel-Tracy. Il y a aussi des jardins via le Fonds du Grand Mouvement qui a octroyé 250 000 $ pour le CAB, pour le projet de rénovation. Donc, je remercie Pierre Desgranges ainsi que toute son équipe
par rapport à ça.
Oui, le directeur général de la Caisse. Il y a aussi, bien évidemment, M. Jean Cournoyer de Construction 2000, Location qui roule et Club du Golfe Continental et toutes ces entreprises qui nous ont aidés beaucoup au niveau des travaux parce que c'est eux qui ont pris en charge les travaux comme Richard mentionnait tantôt. Donc, son équipe a fait un excellent travail à ce niveau-là. Si je pense que j'avais oublié de mentionner quelqu'un, il me semble que c'était vraiment les gros partenaires qu'on a
à date. Vous parlez dans le communiqué de la MRC,
effectivement.
De M. Durand, le président des Aciers Richelieu.
Tout à fait. Donc la MRC qui nous a octroyé via le fonds Région et Ruralité pour un total de 100 000 $ via ces deux fonds-là. Puis M. Éric Durand, le président d'Aciers Richelieu, Usinage Saint-Laurent, qui a aussi donné en don. Au fond, les rampes d'escalier qu'on a au CAB proviennent et sont conçues de chez Aciers Richelieu. Puis il a fait aussi un don.
Ici, donc, en plus, là.
Oui, effectivement. Il a fait aussi un gros don au CAB à ce niveau-là. D'ailleurs, il va être là ce soir.
Ce qu'on avait fait pour s'aider à aller chercher les dons et ces choses-là, c'est qu'on avait formé un groupe d'ambassadeurs dans lequel il y avait Éric Durand, Jean Cournoyer et M. Desgranges. Okay? Et c'est avec eux autres qu'on a travaillé là, l'ensemble du dossier pour arriver à être capable là, de fonctionner.
Parce que là, on parle aux trésoriers. Là, vous l'aurez remarqué, M. Bourque, vous avez autant supervisé le projet lui-même que...
Si il a plusieurs chapeaux, oui.
Oui, c'est ça. Cette préoccupation-là, évidemment, d'arriver à l'intérieur des coûts, c'est important pour les membres du conseil d'administration.
C'était toujours aussi de trouver comment on faisait, même si l'architecte ou l'ingénieur conseil avait demandé telle chose, est-ce qu'on avait une autre façon de le faire pour réduire nos coûts aussi, tout en respectant là, la loi puis les conformités à ce niveau-là.
Est-ce que
durant tout le projet, ça a été tenu compte.
Je comprends de ce que tu as dit, Ando, tout à l'heure, c'est que pour pouvoir entreprendre les travaux, il fallait que vous soyez les propriétaires, parce que sinon, évidemment, c'est la ville qui aurait été responsable des travaux.
Et la ville n'aurait pas pu faire de partenariat comme on a fait.
C'est ça.
Effectivement.
Exactement.
Ouais. Ça a été plus facile.
Donc, c'est en même temps, vous avez maintenant la propriété de l'édifice,
oui.
Mais vous avez aussi une liberté un petit peu plus grande,
oui.
pour aller chercher du soutien à gauche et à droite pour réussir.
Tout à fait. Une marge de manœuvre au niveau des subventions et tout ça, le financement. Oui.
Parce que vos partenaires, de façon générale, ils sont quand même présents. Là, je regarde dans votre rapport annuel, la liste des donateurs est assez impressionnante. Là. Vous couvrez large dans la région pour aller chercher du soutien chez des entreprises, chez des individus également qui donnent.
Donc, oui,
il y a un roulement là, de dons, j'imagine.
On a un gros bassin de partenaires, de collaborateurs, de donateurs, dont M. Bibeau qui est ici à côté avec nous, là, fait, qui nous donne aussi en temps et puis en argent. Donc, effectivement, on a la chance d'avoir la communauté et la communauté d'affaires aussi qui est avec nous, derrière nous, soit au niveau de notre projet en tant que tel, soit au niveau des services... du câble.
Tout à l'heure, on ira plus loin sur les services parce que j'ai hâte qu'on aborde cette question-là parce que là, on parle de l'édifice. Oui. C'est important parce que c'est le lieu où vous êtes en mesure d'offrir une partie des services.
Juste donner un exemple du monde personne, une utilité que je n'avais pas vue au début. Je pensais plus aux personnes à mobilité réduite. Mais exemple, une jeune maman qui arrive, qui a sa poussette, qui a son enfant. Avant, il fallait descendre dans les escaliers. Mais maintenant, on peut utiliser le monde personne.
Tout à fait. Et ça change évidemment votre possibilité d'accueillir, d'accueillir les gens. J'aime beaucoup, Ando, aussi ce que tu disais tout à l'heure sur tout l'aspect de la dignité. Mm-hmm. Évidemment, vous êtes en soutien à des gens qui ont des besoins et qui sont peut-être aussi plus vulnérables. Et cette préoccupation-là que vous avez, c'est fondamental dans votre approche avec les gens avec qui vous travaillez?
C'est extrêmement fondamental, en tout cas pour moi, en tant que directeur du CAB. Moi, j'insiste beaucoup sur la confidentialité et la dignité des personnes qui fréquentent nos services. Là. Fait que j'en passe aussi le mot à mon équipe. Là. Ils savent très, très bien à ce niveau-là que je suis assez à cheval, entre guillemets, sur ces principes-là.
Ce qu'on a fait pour ça, on avait des bureaux comme celui de Sylvie, que les murs montaient même pas jusqu'en haut.
Ah ouais.
Puis elle reçoit la majorité des gens. OK? Fait que c'était difficile d'avoir une confidentialité. Maintenant, on a fait un bureau fermé. On a même insonorisé les murs à l'intérieur de ça pour permettre cette confidentialité-là. Parce que c'est déjà difficile de venir demander de l'aide, OK? Quand tu sais qu'à un moment donné, que les gens, tout le monde te voit, ou t'attends sur la rue pour pouvoir rentrer, ou tu penses que les gens t'entendent quand tu veux t'exprimer. Fait que
vous êtes fier des travaux qui ont été réalisés? Vous êtes satisfait, M. Bourque?
Très fier.
Oui.
C'est l'ordre à l'équipe là, de Jean Cournoyer, Cédric Thibault. Puis on a eu aussi Luc Letang, qui a été le contremaître sur place, qui vraiment là, nous a aidé beaucoup.
Combien de temps les travaux ont duré?
C'était supposé durer de la mi-février jusqu'à la fin octobre. Et le 21 juillet, on rentrait dans les bureaux.
Attendez un peu, là, vous êtes en train de me dire que vous étiez en avance sur les échéanciers?
Oui. Le suivi très serré.
Y a-t-il un prix pour ça?
le suivi très serré qui a été fait, OK? Et deux, la pandémie a apporté des inconvénients, mais l'augmentation du pourcentage d'intérêt, OK, a fait que beaucoup de travaux ont arrêté. Les coûts n'ont pas baissé. Mais le délai de livraison ont été améliorés. On avait des équipements comme le monde personne, le système de hotte pour la cuisinière ou le compensateur, qui, eux, ont permis de livrer beaucoup plus vite.
Mais c'est très intéressant de constater ça. Ça n'arrive pas tous les jours qu'on parle de ça à la radio, des délais qui sont plus courts que ceux qui sont prévus. Écoutez, vous rendez des services à des milliers de bénéficiaires, vous avez des centaines de bénévoles, des dizaines de milliers d'heures de bénévolat. On a parlé de l'édifice, maintenant on va parler de vos services. On va se rendre de l'autre côté de la pause pour regarder exactement la présence que vous avez dans le milieu et auprès de qui vous faites le travail que vous faites. Alors, tout le monde, de l'autre côté de la pause, on va discuter maintenant de l'action du Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu. À tout de suite.
L'agriculture peut être un moteur de changement positif pour notre planète. Découvrez comment au Biophare lors de la conférence du dimanche 5 novembre présentée par Paul Caplette. Réservez rapidement vos places par téléphone au 450-780-5740.
La radio, tout le monde l'écoute et elle fait partie de notre quotidien. Elle permet d'atteindre des clientèles précises. C'est le média qui nous suit partout. C'est le meilleur moyen d'atteindre le consommateur au moment même de ses décisions d'achat. Elle crée la notoriété spontanée et fait réagir le consommateur. Et elle est écoutée de manière stable toute l'année. Pour profiter de ce média aux multiples possibilités, CJSO vous invite à contacter l'une de ses conseillères en communication au 450-743-2772. CJSO 101.7, avec vous au quotidien.
Meubles André Beaulieu fête ses 50 ans. Pour l'occasion, vous êtes invité à participer au concours de notre famille à la vôtre. Vous pourriez gagner un repas pour 8 personnes au restaurant Le Fougas, une valeur de 750 $. Participez jusqu'au 29 novembre en remplissant le formulaire en ligne à meublesbeaulieu.ca. De notre famille à la vôtre pour célébrer les 50 ans de Meubles André Beaulieu.
La saison du VR, des décapotables et de la moto au Québec, ça passe en un claquement de doigts. Profitez de l'été jusqu'au dernier moment en remisant votre véhicule saisonnier en ligne avec SACLIC. Vous pouvez même planifier dès maintenant la date de votre remisage afin de profiter de votre véhicule sans aucun souci, quitte à la modifier si vous changez d'idée. Évitez de vous rendre dans un point de service. Pour faire son remisage comme ça, le chemin le plus court, c'est SACLIC. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Si je vous ai bien compris,
c'est bon, c'est fou, c'est pour vous.
Je suis content sur un nuage et je plane déjà. Ça se poursuit, oui, mes amis, à tous les vendredis.
On se prépare.
Oh, Seigneur.
Oreille gauche, oreille droite, testing.
1, 2.
OK.
Bon, allons-y, on en finir ça au plus vite.
Le vendredi dès 15h30, c'est n'importe quoi.
Tu t'appelles comment?
Stage Lacroix.
Merci.
Et la radio, alors?
CJSO.
Le retour de Stage Lacroix.
C'est n'importe quoi.
Une présentation de Location FGL et de Meubles André Beaulieu. Tête première. Une présentation de Meubles André Beaulieu et de Développement économique Pierre de Sorel. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud. De retour à Tête première avec Denis Larion.
Alors, on est en... L'émission d'aujourd'hui porte sur... l'action du Centre d'action bénévole. Je suis avec Ando Andrianadi, le directeur général, avec Roger Bibeau, qui est un bénévole, Richard Bouc, qui est aussi un bénévole, mais qui est trésorier et qui a géré le projet de rénovation. Puis Sylvie Ouellette, qu'on va entendre en particulier là, dans les prochaines minutes, qui coordonne le soutien alimentaire. Ando, votre nom l'indique, vous êtes un centre d'action bénévole. Juste avant qu'on entre dans les différents champs où vous êtes actifs, ça fonctionne comment, le CAB?
Au fond, le CAB, effectivement, c'est un centre d'action bénévole. Donc, avec le nom même, on peut en déduire que notre mission principale, c'est l'action bénévole. Donc, la promotion du bénévolat, le recrutement. Puis, au fond, on fait aussi des référencements vers les organismes qui en ont besoin ou sinon vers nos services en tant que tels.
Je suis vraiment très impressionné par plusieurs chiffres que j'ai lus dans votre rapport annuel. Juste pour le plaisir, là, je vais en nommer quelques-uns, là, pas pour mêler personne, mais juste pour que vous voyez, pour les gens qui nous écoutent, là, ce que ça signifie. En 2022, donc probablement de janvier à décembre 2022, là, qui était votre dernier rapport annuel.
Oui, c'est notre année financière, oui.
Oui, c'est ça. On parle de 4931 bénéficiaires, on parle de 206 bénévoles. Là, écoutez ça, on parle de 21 970 heures de bénévolat. On parle de plus de 136 000 kilomètres parcourus par vos équipes, de l'aide alimentaire auprès de 6 841 personnes, 26 000 déjeuners offerts. Bon, là, il faut qu'on en parle, là. Exactement.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites pour être en mesure de répondre arriver à ces chiffres-là?
Bien, au fond, on a... Je voudrais dire qu'on a une équipe de 12 personnes permanentes, plus nos bénévoles dont tu avais mentionné tantôt. En 2022, il était à l'ordre de 206 bénévoles. Donc, toutes ces équipes-là mises ensemble qui font en sorte qu'on arrive à donner les services à la communauté. Mais effectivement, c'est beaucoup d'heures de bénévolat, c'est beaucoup d'heures de travail. Puis je tenais à souligner puis à remercier les bénévoles qui s'impliquent avec nous et nos membres de l'équipe. Et le conseil d'administration aussi qui fait un excellent ils travaillent.
J'ai été maire, je sais ce que c'est, oui. Je connais l'importance des bénévoles. Si on mettait juste une heure de bénévolat au salaire minimum, ça donne une idée de l'ampleur de ce que ça signifie, ces heures de bénévolat.
Oui, puis il faut souligner aussi, sans les bénévoles, on ne serait pas capable d'offrir des services à la population. On ne serait pas capable. Bon. Donc, la présence des bénévoles, elle est très, très, très importante pour notre organisme.
Puis en 2022, Denis, justement, en lien avec le salaire minimum, si on fait fois le chiffre que vous avez mentionné tantôt, 21 000 heures de bénévolat, ça donne 313 000 $ 313 000, oui, effectivement, dollars.
Imaginez ce que ça coûterait à la société si on n'avait pas des organismes comme les vôtres. Alors, vous nommez plein de programmes que vous avez, maintien à domicile, l'aide aux enfants, le soutien alimentaire. Vous avez des cliniques d'impôts, si j'ai bien compris, pour aider les gens à compléter leur rapport d'impôts. Vous avez aussi des programmes Info-Cancer, Défi-Cancer. Oui. Parlez-nous ça un peu, là. Vous êtes où exactement et qu'est-ce que vous faites?
Bon, bien, moi, comme on l'a mentionné tantôt, je m'occupe de tout le volet alimentaire, soutien alimentaire. Donc, je travaille auprès des familles, auprès des gens qui vivent seuls, pour les aider, justement, dans l'aide alimentaire. On parle particulièrement, ces temps-ci, le CAB, on voit la pauvreté d'une autre façon, dans le sens qu'on a des gens qui ne venaient pas avant au Centre d'action bénévole chercher de l'aide. On parle de famille, des fois, que les deux parents vont travailler, qui viennent chercher de l'aide alimentaire, parce que si on s'entend que travailler au salaire minimum maintenant, avec toutes les dépenses, avec tout ce que ça englobe...
Et les coûts du logement aussi.
Et le coût du logement, le coût de la nourriture, on parle de besoins de base. Les gens ont de la difficulté à arriver juste en défrayant les frais de base. Donc, nous, on est là pour aider les gens, les aider du côté alimentaire, parce que c'est important, on s'entend, de bien manger. Donc, moi, dans le fond, mon rôle, c'est justement, j'accueille les gens, puis c'est surtout de les sensibiliser à nos services, parce qu'on parle de dépannage alimentaire, mais on a aussi les déjeuners écoles. Là, on vient de terminer Opération Septembre, c'était pour aider les familles à payer les frais scolaires de l'école. Et là, on va entamer bientôt les paniers de Noël. Donc, moi, mon rôle, c'est un peu de s'occuper de tout ça.
Concrètement, là, ça se passe comment exactement? Ce sont des gens qui vous sont référés, ce sont des gens qui y vont d'eux-mêmes?
Je travaille avec plusieurs intervenants du milieu, que ce soit de CLSC, CRDI, que ce soit, bref, plein d'intervenants qui travaillent auprès de plusieurs familles, plusieurs personnes. Donc, j'ai des références directement d'intervenants. Il y a les gens aussi qui vont venir de par eux-mêmes. Donc, ça, on appelle plus pour le volet dépannage d'urgence, parce qu'on a un dépannage d'urgence qu'on peut effectuer durant la semaine, mais à chaque mercredi, ça s'appelle le marché du CAB. Donc, à chaque mercredi, de 12h30 à 15h30, on reçoit les gens de manière hebdomadaire. Donc, les gens, une personne seule ou en couple, ça va coûter 5 $, ou trois personnes et plus, c'est 10 $. Et on s'entend, c'est une bonne boîte de dépannage qui leur permet justement
Donc, c'est de la nourriture que
vous remettez. Oui, c'est de la nourriture. C'est de la nourriture. On va offrir autant de la viande que des fruits. Dans le fond, nous, on dépanne de Moisson-Rive-Sud, qui est à Boucherville, et on dépend de ce qu'on reçoit. Donc, nous, on donne ce qu'on reçoit. Ce qui veut dire qu'une semaine, on peut donner du lait, l'autre semaine, on n'en donnera pas. Mais ce qu'on va donner, par contre, ça va être vraiment une bonne aide. Fait que, dans le fond, la personne qui va recevoir ça, bien, peut-être, oui, devra aller à l'épicerie chercher d'autres choses pour compléter, mais la base, elle est là. Ça permet vraiment d'aider le plus de gens possible.
Est-ce qu'on est dans des clientèles qui sont sur plusieurs générations?
Oui.
Il y a des clientèles des jeunes familles que des aînés,
par exemple. Tout à fait. Je peux avoir autant une jeune maman qui a 16 ans, qui vient d'accoucher, qu'un adulte. J'ai malheureusement une personne de 92 ans aussi qui vient chercher de l'aide alimentaire de manière régulière. Les réalités aujourd'hui ont changé. Comme je disais tantôt, il y a des gens qui vont... les deux personnes vont travailler. Avant, on n'avait pas ça. Avant, on avait des gens, sur l'aide sociale ou on venait de perdre un emploi. On encore ces gens-là, mais on a des gens qui suffisent pas avec leur revenu de retraite. Donc, ça aussi, c'est des réalités qu'on n'avait pas. Le gouvernement va leur dire, bien, écoutez, monsieur, vendez votre maison, puis après ça, bien, vous viendrez nous voir, on va pouvoir vous aider. Mais je sais pas, moi, ça fait 50 ans, 60 ans que je demeure à la même maison, bien, ça, je veux peut-être pas quitter. Puis là, se trouver un logement, on le sait, tout le monde, le taux d'inoccupation qui est à 0.2% ici dans la région, on peut pas faire grand-chose non plus. Les coûts exorbitants, justement, pour louer un loyer. Donc, en tout cas, il y a les mesures. Il va falloir que le gouvernement fasse quelque chose pour aider tout le monde, parce que je ne sais pas ce qui se passe présentement, mais Nous, de notre côté, on augmente. Les statistiques mm-hmm. augmentent. Puis normalement, on serait content. Tu sais, quand on va faire une activité, on est content, nos statistiques augmentent. On est populaire, mais dans notre cas, on est populaire, mais on aimerait être moins populaire. Puis comme je disais tantôt, ça fait 2 ans que je travaille au Centre d'action bénévole. On a commencé, on avait entre 100, 125, 130 personnes. Maintenant, 155 personnes ce mercredi qu'on a aidé, juste le mercredi. Et on ne compte pas les dépannages d'urgence entre ça. On ne compte pas non plus certaines personnes qu'on va livrer parce qu'il y a des gens qui ne sont pas habiles à se déplacer.
Roger Bibeau, vous travaillez beaucoup sur le dossier des petits déjeuners, si j'ai bien compris.
Effectivement. Moi, il y a un an, quand j'ai cessé... à toute fin pratique, mes activités quotidiennes, même s'il m'en reste encore quelque peu, je me cherchais de quoi à faire parce que je ne suis pas capable de rester à rien faire. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aller... On entend parler des petits-déjeuners depuis nombre d'années. Fait que moi, je suis allé me présenter au Centre d'action bénévole, espérant aller offrir des petits-déjeuners dans les classes le matin. Sauf qu'avec la pandémie... Tout ça a évolué et ici à Sorel, on a décidé de livrer les petits déjeuners à domicile. Fait que donc, moi, les mercredis matin et les jeudis matin, je vais au CAB préparer des petits déjeuners et à la suite de ça, je vais en livrer.
À domicile?
Oui. Effectivement, on livre à domicile. On a peut-être même une dizaine de livreurs qui ont tous chacun leur rang.
Leur route, oui.
Qui partent vers 9h, un coup que les sacs ont été préparés et qui vont livrer à chacun des domiciles selon une route préétablie d'avance, des gens qui ont fait application, qui ont justifié qu'ils avaient besoin de l'aide pour les petits déjeuners auprès du CAP.
On connaît les statistiques, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui arrivent à l'école le ventre vide, des services comme les vôtres, évidemment, comme de raison, ça... Ça permet de répondre un peu, là. Je ne reprendrai pas ce que Sylvie disait sur le fait que c'est peut-être plus généralisé que ce qu'on souhaiterait. Puis
effectivement, comme Sylvie parlait tantôt, là, entre ce qu'on faisait l'hiver dernier, aller jusqu'au printemps, jusqu'au mois de juin, à la fin des classes, et à la reprise en septembre, la clientèle a augmenté de près de 20%, malheureusement.
Et vous, c'est ça, c'est un constat réel. Là. C'est une augmentation de 20%, c'est beaucoup. Là,
C'est ça. Fait que moi, quand j'ai diminué mon activité économique, je me cherchais un job, puis mon critère numéro un, c'était de ne pas payer d'impôts. Fait que donc, à tous ceux qui cherchent de quoi faire, qui veulent sauver de l'impôt, venez faire du bénévolat au CAB. C'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement enrichissant personnellement, et on aide aux gens qui en ont vraiment besoin.
Ando, les gens, les bénévoles comme Roger Bibeau, est-ce que ce sont des gens qui sont là depuis longtemps? En avez-vous des nouveaux? Comment ça fonctionne sur...
Bien, c'est très varié, oui. On a des gens qui viennent d'arriver ou qui sont là depuis un an ou deux, mais il y a effectivement aussi des bénévoles comme Richard, au fond, qui sont là depuis une quinzaine, vingtaine même d'années. Donc, c'est très, très diversifié.
Et ça, c'est bon signe aussi pour vous. Si les bénévoles trouvent le plaisir et l'intérêt à continuer à collaborer avec vous, c'est qu'ils y trouvent ce qu'il faut pour continuer. Roger, c'est
valorisant, okay, de pouvoir faire ces choses-là, de voir qu'on rend à la communauté, qu'on a des capacités, mais qu'on est capable de rendre à d'autres. OK. Pour aider les autres aussi.
Oui, tout à fait. Sylvie, il y a d'autres aspects. Par exemple, vous avez des cuisines collectives, la popote roulante aussi, qui est très importante, où là, vous allez livrer chez les gens.
Oui.
Et ça aussi, c'est en expansion?
Oui, la popote roulante, en fait, là, c'est pour, justement, on parle pour les aînés, mais ça peut être aussi pour une femme enceinte qui vient d'accoucher, ça peut être aussi pour quelqu'un qui est en convalescence. Donc, c'est des bénévoles qui vont porter un repas à chaque jour, du lundi au vendredi, en fait. Fait que c'est pas seulement un livreur qui va aller porter un repas chaud. C'est plus que ça parce qu'on peut aller voir chez la personne, voir son état de santé, voir si elle est encore en vie à la limite. Fait que c'est beaucoup plus que ça, la popote roulante. Fait que
c'est
ça
une
aussi,
présence.
Exactement, c'est une présence. Fait que ça, c'est toute une équipe de bénévoles qui passe à tous les jours du lundi au vendredi.
Je veux absolument qu'on en parle, mais on n'a pas beaucoup de temps avant la prochaine pause. Là, mais je veux qu'on parle de la pandémie, l'impact que ça va avoir eu sur vous aussi. Fait que donnez-moi 2 secondes, on va parler d'autre chose, mais on va y revenir parce que j'imagine que, en tout cas, on a tous vu disparaître les bénévoles, entre guillemets, pendant la pandémie. Là, on pourra en parler après la pause. Ando, quand tu regardes ce que devient le CAB, quand tu as pris la direction, tu apprécies le chemin que c'est en train de prendre?
Oui, tout à fait. Je pense que je suis très, très fier du chemin qu'on a parcouru depuis quelques années, là, notamment avec l'équipe, le conseil d'administration et tous les bénévoles qui nous appuient. Je pense qu'on a pris des décisions au meilleur de notre connaissance. Puis ça, c'est important, je pense, de fonctionner de cette façon-là. Mais au niveau des services et de où on s'en va, on est vraiment très contents là, dans les rénovations.
Puis j'ajouterais que le Centre d'action bénévole a toujours été capable de s'adapter. On a eu la COVID, mais oui. Il a fallu s'adapter, se tourner assez rapidement pour être capable de... Ah. Parce qu'on est un service de première ligne. Donc, les gens avaient quand même faim, même en...
J'ai très hâte qu'on en parle parce que ça, je trouve ça extrêmement... extraordinaire ce qui s'est fait dans le monde communautaire pour être capable de continuer à livrer des services malgré les épouvantables difficultés. On parle de tout ça après la pause publicitaire que voici.
CJSO en concentré.
C'est un jour chargé, mais c'est ce que j'aime. Je suis un gars qui a multiples intérêts dans la vie.
Quand tu es l'interviewé, tu ne sais pas du tout dans quelle direction ton vis-à-vis va aller.
C'est bien
plus stressant. Tu n'as pas pu te préparer autant.
Ça nous arrive des fois qu'on parle de d'autres choses, puis qu'on a bien du plaisir et que rien n'est organisé en ce sens.
Les meilleurs moments de toutes nos émissions.
Je t'ai sûrement pas dit, je suis un excellent.
CJSO en concentré. Les samedis, dimanche matin, 7h à CJSO.
La bonne nouvelle économique. Une présentation de la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires.
L'administration portuaire de Montréal salue l'octroi de 150 millions de dollars annoncé par le ministre des Transports Pablo Rodriguez à son projet de terminal de Contrecœur. Cet investissement stratégique est un pas de géant, estime l'administration portuaire, pour améliorer la fluidité dans la chaîne d'approvisionnement au Canada. Le soutien financier annoncé par le ministre Rodriguez permettra notamment à l'APM de faire évoluer le modèle de réalisation du grand projet d'expansion sur la rive sud de Montréal. La nouvelle approche préconisée par l'administration du port de Montréal prévoit que les travaux du futur terminal seront effectués en mode hybride. Les travaux en eau seront entièrement pris en charge par l'APM. Les travaux terrestres et l'exploitation seront réalisés par un partenaire privé. L'APM lancera un appel de proposition sur invitation au début de 2024 pour sélectionner ce partenaire.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
Chez Sport Expert, obtenez 50 $ en carte promo à l'achat de 250 $ sur des vêtements et équipements de sports divers sélectionnés de nos nouvelles collections. Détails en magasin ou au sportexpert.ca.
Il y a plein de choses dont je veux vous parler dans Valérie l'après-midi. On parle bien sûr des artistes, de musique, on en écoute de l'excellent pour votre retour à la maison. On jase aussi de santé, de littérature et de vie au travail grâce à mes collaborateurs et on demeure bien informé avec Sylvain Rochon. Mon nom est Valérie Ferland, je vous attends du lundi au jeudi, 15h30.
Tête première, une présentation de Meubles André Beaudieu et de Développement économique Pierre de Sorel. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud, de retour à Tête première avec Denis Larion.
J'espère que ce que vous entendez aujourd'hui, vous trouvez ça inspirant parce que c'est quand même très intéressant de voir l'ensemble des actions que vous portez puis le rôle que vous jouez dans la région. Je vous rappelle, je suis avec l'équipe du Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu avec Ando Andrianadi qui est le directeur général, Roger Bibeau qui est un bénévole, puis on va parler de choses intéressantes avec lui tout à l'heure, Richard Bouc, le trésorier qui est aussi membre du conseil d'administration, puis Sylvie Ouellet, dont vous avez pu entendre l'enthousiasme tout à l'heure au micro. Elle est coordonnatrice du soutien alimentaire au CAB. Juste avant la pause, on a juste glissé sur l'impact de la pandémie. On a vécu avec la pandémie, évidemment, le confinement. L'impact a été énorme sur la population, mais ça a été aussi un grand impact sur les organismes qui offrent des services parce que vous avez dû, comme tout le monde, revoir vos pratiques, revoir votre façon de travailler pour continuer à offrir des services à des gens qui en avaient besoin. Quelles leçons vous tirez de la pandémie au CAB après 2 ans, 3 ans là, de folie à toutes fins utiles?
Bien, je pense que les leçons qu'on a tirées sont vraiment nombreuses, mais certaines d'entre elles sont vraiment, il faut être créatif, faut s'adapter à la situation, comme Sylvie mentionnait tantôt. Donc, il y a eu des situations où, par exemple, effectivement, on a perdu beaucoup de bénévoles à cause du fait qu'il y a eu le confinement
des
65 ans et plus.
Les bénévoles ne pouvaient pas plus sortir de la maison que les gens à qui vous voulez offrir des services.
Oui,
là.
C'est cela. Puis on a constaté avant 2019 versus maintenant qu'on a perdu 30 5% de nos bénévoles, parce qu'on a comptabilisé, il y a eu des gens qui sont mis à appeler les bénévoles avant la pandémie pour un futur retour, mais les gens ont mentionné qu'avec la pandémie, ça a changé les priorités, etc. Ce que les gens ne savent pas non plus nécessairement durant la pandémie, c'est qu'on a eu plusieurs cas de COVID, par exemple, au sein d'un de nos fournisseurs, ce qui a fait en sorte que du jour au lendemain, on ne pouvait pas, par exemple, livrer la popote roulante. Fait qu'on a dû se revirer de bord pour se dire, OK, on prend un service traiteur qui va pouvoir nous le faire au même prix, pouvoir livrer la popote, assurer l'alimentation chez les personnes âgées. Il y a aussi les déjeuners écoles, comme Roger mentionnait tantôt. T'sais, avant, c'était dans les sous-sols d'école, mais à cause de la fermeture des écoles, on a dû trouver des idées pour pouvoir continuer même à livrer ces services-là. Donc, il y a plein de petits éléments qui ont fait en sorte qu'il fallait être créatif, il fallait se revirer sur un design, comme disait l'expression.
Est-ce que vous avez beaucoup de monde aussi avec qui travaille avec vous? Là. Tu viens de donner l'exemple du traiteur qui a pied levé probablement, a remplacé le fournisseur habituel. Vous travaillez avec beaucoup de gens, puis c'est important pour vous aussi. Puis je reviens sur le fait que Sylvie disait que même les services publics, là, le CLSC par exemple, c'est des partenaires pour vous parce qu'ils vous aident à identifier les gens auprès de qui vous pouvez agir. Cette notion, vous, dans le grand ensemble des organismes de la région, vous êtes à l'aise à travailler avec d'autres mondes comme ça?
Oui, la force du CAP, je dirais en ce moment même, c'est le partenariat, la collaboration avec soit les organismes ou les gens du milieu. Là,
puis ça se traduit comment, de façon peut-être plus concrète?
Plus concret, c'est vraiment...
Le geste. Exemple, le geste. OK, on collabore beaucoup avec. Okay,
On parle de l'épicerie sur Marie-Victorin.
Dans le sens de partager nos informations pour ne pas faire les choses en double à un moment donné.
Oui, tout à fait.
Okay, surtout quand arrive la période des paniers de Noël. On a IGA, okay, on a Provigo qui nous fournissent aussi des invendus. Qui nous aide là, au niveau du marché.
De l'aide alimentaire.
Je travaille, moi, directement avec tous les intervenants du milieu communautaire. Si, en exemple, j'ai quelqu'un qui a des difficultés financières, bien, je vais le référer à la CIF. Je travaille vraiment, on ne réinvente pas les services. Il y a d'autres services qui existent dans le communautaire, donc c'est d'utiliser tous les services communautaires qu'on
connaît. C'est une des forces du monde communautaire d'être capable de faire des passes. Là. Vous partagez les cheminements. Là.
Exactement.
On a parlé un petit peu de la clientèle tout à l'heure. Roger, pendant la pause, vous avez évoqué le fait qu'on est de plus en plus conscient, tout le monde, qu'il y a des enjeux de santé mentale dans notre société. On est à une étape de notre vie collective où on est capable de nommer les choses, puis c'est très important.
Je pense que tout le monde sait que le gouvernement a désinvesti dans ce qu'on appelait dans le temps les asiles. Je ne me souviens pas depuis combien de temps. Et la santé mentale est encore là. Avec les défis économiques, avec les défis de la nouvelle population, avec les défis de la toxicomanie, en même temps que le gouvernement désinvestissait en santé mentale, la toxicomanie, que ce soit de la drogue pour les boissons, elle dépasse l'inflation. Là, fait que, donc, quand on regarde tout ça... Et j'ai des amis, moi, qui sont très à l'aise financièrement, qui hésitent à donner au CAP parce qu'ils me posent la question suivante, à savoir, pourquoi, Roger, il y a tant de monde sur le trottoir, des gens de 20-30 ans, qui sont à l'âge de travailler, il y a des emplois de disponibles comme ça se peut pas, et puis que ces gens-là, ils vont quêter au CAP plutôt que d'aller travailler. Bien, je pense qu'il y a une bonne partie parmi ces jeunes-là, si je peux me permettre de parler un petit peu de cette catégorie d'âge-là, qui ont peut-être des difficultés mentales ou qui ont peut-être des défis de toxicomanie. Fait que donc, il ne faut pas se laisser leurrer par tout ce qui se dit puis de se faire des préjugés trop facilement sur le dos de diverses personnes qui devraient travailler, effectivement, mais peut-être qui travaillent un peu, mais qui ne sont pas capables physiquement ou mentalement de donner plus que 10-20 heures par semaine. Mais tu ne peux pas subvenir aux besoins de l'augmentation du coût des logements, du manque de logements, dont les villes sont nettement interpellé par différents contracteurs, par différents... ce qu'on a juste à lire dans les journaux, là.
Le poids de la crise du logement, elle est... oui, tout à fait.
Et Dieu sait qu'à Sorel, on a besoin de population, puis je pense qu'à Sorel, on n'est pas mieux que les autres à ce que si un entrepreneur, qu'on lise les journaux, si un entrepreneur qui veut faire des projets, on dirait que...
L'enjeu, c'est aussi évidemment la question de l'abordabilité, là, c'est-à-dire...
On dirait qu'à Sorel-Tracy, on fait tout pour bloquer la construction de logements, alors qu'on a besoin de nouveaux payeurs de taxes, parce que qu'on vient de développer la chose de soccer à Tracy, on veut... une nouvelle piscine. Bon, on a besoin. À Sorel, la population est décroissante depuis nombre d'années. Et là, on a une opportunité en or. Mais je ne suis pas sûr qu'on est conscient de ça politiquement.
Roger, avez-vous l'impression que le travail qui est fait par vous, par les bénévoles, par le CAB, non seulement répond à un besoin immédiat, là, c'est-à-dire que les gens avec qui vous travaillez, c'est des gens qui ont besoin de soutien maintenant. Mais pensez-vous que ça aide à créer ou à les aider justement à se sortir peut-être de situations plus difficiles? Est-ce que vous êtes non seulement une aide d'urgence, mais un lieu où on peut imaginer que la situation de ces gens-là va peut-être s'améliorer?
Bien, c'est sûr qu'une personne en détresse temporairement, bien, psychologiquement, elle n'est pas apte à se reprendre en main parce que quand tu n'as pas de quoi à te nourrir le matin, là, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes, tu n'as pas de quoi à nourrir le matin, là, intellectuellement, là, tu n'es pas très fonctionnel dans le jour pour savoir quelle action prendre pour t'en sortir.
C'est ça. Puis, de toute façon, chaque personne qui vient chez nous est évaluée. C'est Sylvie là, et son équipe qui évaluent. On n'accepte pas n'importe qui, n'importe comment.
Deux choses qu'on va aborder d'ici la fin de l'émission. On approche déjà, malheureusement, comme je le dis à chaque semaine, je pense que je prendrai une heure de plus à chaque fois. Noël s'en vient. Vous allez solliciter la population pour les paniers de Noël. Vous vous y prendrez comment? Je sais que vous êtes pas mal présent partout. Dans ma pauvre petite municipalité de Massouville, on a ramassé des denrées pendant des années là pour et c'était à l'intérieur de la coordination de ce qui est coordonné par le CAB?
Oui, en fait, les inscriptions pour les paniers de Noël vont débuter à partir du 13 novembre prochain. Donc, les gens qui ont besoin d'un panier de Noël doivent se présenter au CAB les lundis, mardis et jeudis du 13 novembre au 14 décembre. Donc, pas besoin de prendre rendez-vous, juste se présenter au Centre d'action bénévole qui est situé au 70 Élisabeth. Et comme tu le mentionnais, Denis, on dessert dans le fond toute la MRC Pierre-de-Sorel. Donc, c'est Saint-Gérard-Magella, Saint-David, Saint-Robert, Saint-Victoire. Là, je nomme juste ceux-là.
Mais
exactement. C'est la MRC au complet. Donc, on aide les municipalités, justement, qui ont leur propre guignolée, comme un exemple Saint-Ours, qui a sa propre guignolée, Saint-Aimé, Massouville, peu importe. Donc, on fait les entrevues pour les municipalités. Donc, on peut dire oui, OK, cette personne-là est éligible. Donc, des fois, les municipalités le font. Des fois, elles ne le font pas. À ce moment-là, ben, c'est le Centre d'action bénévole qui allons donner un panier de Noël aux familles qui en ont besoin.
Excellent. Donc, on est déjà rendu là. Hein? On est le 26 octobre aujourd'hui. Mais dans deux mois, on va être après Noël.
Exactement. Mais juste un dernier détail, panier de Noël, mais c'est aussi pour les jouets, dans le fond, pour l'arbre de joie aussi, oui. Les inscriptions qu'on fait.
Tout à fait. Puis, vous êtes aussi en campagne de financement actuellement. Richard, vous êtes engagé dans une nouvelle campagne
c'est
de financement.
Ça, c'est qu'à l'heure actuelle, le fait que notre fonds de roulement qu'on a mis de nos argents qu'on avait, notre fonds de roulement est presque à zéro. C'est qu'à l'heure actuelle, on a pris une marge de crédit, OK, pour pouvoir fonctionner. Ça fait qu'il nous manque encore un peu d'argent. On a une campagne en cours qu'on cherche 200 000. On a 70 000 à l'heure actuelle.
Déjà?
Oui. Les gens peuvent donner une entreprise ou ces choses-là. Alors, on n'est pas obligé de donner tout un montant tout de suite. Ça peut être sur 5 ans, OK? À chaque année, on veut donner un 500, un 1 000, OK? On accepte.
Vous me direz si je me trompe, mais quand je suis allé sur votre site Internet, qui est hyper facile à trouver, là, sur le site Internet du CAB, on voit les éléments pour contribuer, là, faire un don
directement. Oui, la plateforme Zephy.
Oui, c'est ça. Ando, l'avenir. On a quelques minutes, là. L'avenir du CAB, tu le vois comment?
Et au fond, on a plusieurs enjeux là, ou défis dans les prochaines années, dont la relève au niveau des bénévoles, ça c'est sûr certain. Donc, nos bénévoles commencent à prendre de l'âge et tout ça, donc on va travailler là-dessus. Aussi, le maintien de l'équipe en place, les ressources humaines avec le contexte de pénurie de main-d'œuvre, ça aussi, c'est un enjeu. Je dirais aussi, comme Richard, on s'en est tantôt, le financement, c'est tout le temps. Le nerf de la guerre, à chaque année, il faut recommencer à zéro, solliciter des partenariats, des collaborations, soit avec la communauté d'affaires ici dans la région, ou faire des demandes auprès des bailleurs de fonds fédérales, provinciales, municipales, etc. Je dirais la dernière chose, c'est, ce ne sera pas bien long, je l'ai bien noté, c'est au niveau de l'augmentation de la demande. Donc les denrées disponibles aussi. On travaille beaucoup avec Moisson Rive-Sud. Je siège sur un comité des membres de Moisson. Puis l'avenir est incertain au niveau des denrées. Déjà, les grandes bannières commencent à aussi couper au niveau des denrées. Donc, ça a l'impact sur les banques alimentaires.
Écoutez, vous venez d'entendre Ando Andrianadi, le directeur général du Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu. J'avais avec moi aussi Roger Bibeau, que vous connaissez bien. Merci beaucoup, Roger. Richard Bourque, le trésorier, membre du conseil d'administration. Sylvie Ouellet, qui est la coordonnatrice au soutien alimentaire. Merci. Je pense qu'on a soulevé un peu le voile sur vos activités, sur ce que vous faites. On vous attend la semaine prochaine pour une autre émission.